Vous écoutez, on lit pour vous.
Oui, les parents ont un enfant préféré. Un texte de Louise Leduc, paru le 16 janvier 2025 dans la presse. Vous n'avez pas la berlue. Oui, vos parents avaient un enfant préféré. Pire, parmi vos enfants à vous, il y en a un que vous chérissez plus que les autres. Qui le dit? Des chercheurs qui se sont sérieusement penchés sur la question du favoritisme parental et dont l'étude vient d'être publiée par l'Association américaine de psychologie dans sa revue Psychological Bulletin. La conclusion des chercheurs: un type d'enfant est davantage apprécié en général. Lequel est-ce? L'aîné? Le cadet? Le Benjamin? Au départ, les Américains Alexander Jensen et Michael Jorgensen-Wells, auteurs de l'étude publiée dans le Psychological Bulletin, ont plutôt posé l'hypothèse que les mères ont tendance à favoriser les filles et les pères à favoriser les garçons. Ils se sont lancés dans une méta-analyse de 30 articles de journaux scientifiques déjà publiés sur le sujet. Ils ont aussi étudié diverses thèses, épluché 14 bases de données. Au total, 19 469 participants ont été pris en compte. Les chercheurs ont analysé quel impact peuvent avoir l'ordre de naissance, le genre, le tempérament et les traits de personnalité de l'enfant. Au bout de tout cela, les chercheurs ont conclu que les préférés, ce sont le plus souvent les filles, de même que les enfants qui sont consciencieux, responsables, organisés. Dans une moindre mesure, les enfants les plus jeunes auraient aussi moins la cote auprès de leurs parents. Tout indique donc, constatent les chercheurs, que les parents ont une préférence pour les enfants plus faciles à gérer. Un gros tabou. Tout un épisode de The Crown, la série sur la famille royale britannique, porte sur ce thème du chouchou de la famille quand le personnage incarnant la première ministre anglaise Margaret Thatcher confie sans gêne à Elizabeth II que son préféré, c'est son fils. Choquée de l'entendre, la reine se fait rétorquer par son mari Philippe, que chacun sait bien qu'elle a aussi un préféré, Andrew, tombé depuis en disgrâce en raison de ses accointances avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein et, plus récemment, un présumé espion chinois. Dans les deux cas, les deux enfants préférés allégués de la reine et de la première ministre étaient particulièrement exubérants. L'auteur principal de l'étude, Alexander Jensen, ne cache pas qu'il aurait cru lui-même que le favoritisme parental jouerait davantage à l'avantage des enfants particulièrement exubérants, divertissants. Les Américains, par exemple, semblent particulièrement valoriser les personnes extraverties, mais au sein des familles, cela pourrait avoir moins d'importance, note-t-il. Tout de même, l'idée que les fils et les benjamins soient les moins aimés dans une famille semble contre-intuitive. La sociologue Francine Descaries indique d'abord à quel point cette étude ne peut valoir au mieux que pour quelques pays. Car dans la majorité des sociétés, rappelle-t-elle, ce sont des bébés garçons qui sont espérés et valorisés. Pour les États-Unis et pour chez nous, que les filles soient préférées, si tel est vraiment le cas, renvoie sans doute à son avis à la socialisation des enfants. Les petites filles, souligne-t-elle, sont encore éduquées en leur faisant développer la sollicitude, alors qu'on amène plus les garçons vers l'action, vers l'agir. Ça tend à s'atténuer avec la meilleure conscientisation de l'éducation genrée, mais c'est loin encore d'être parfait, note Madame Descaries. Alors oui, peut-être que des filles élevées à être gentilles, voire dociles, ça facilite la vie des parents et ceci explique peut-être cela, en effet, dans nos sociétés. Un enjeu pour la santé mentale. Mais quel est l'intérêt de faire des recherches sur ce sujet, autrement que de faire jaser dans les chaumières? Les chercheurs font observer que, comme l'ont déjà démontré plusieurs études, les traitements différenciés entre les enfants ont leur impact. Des études ont déjà établi que les enfants moins appréciés se développent moins bien, qu'ils ont une moins bonne santé mentale. Il signale aussi que deux études ont conclu que les enfants moins favorisés ont davantage de comportements problématiques, de même que des relations familiales plus difficiles. Fait à noter, les chercheurs relèvent que leur étude ne leur a pas permis de voir si les modèles observés évoluaient, autrement dit, si les préférés demeuraient les mêmes dans une fratrie de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Somme d'argent additionnelle donnée à l'un ou à l'autre, permission spéciale, indulgence plus grande face aux mêmes comportements répréhensibles. Les parents ont de quoi cogiter sur leurs agissements et sur leurs effets. Les adultes d'une fratrie trouveront aussi peut-être matière à réflexion. La prochaine fois que vous vous demanderez si votre frère ou sœur est l'enfant préféré, souvenez-vous qu'il y a probablement bien plus en jeu que la simple préférence pour l'aîné ou le benjamin, souligne Alexander Johnson. Cela pourrait être lié à la responsabilité, au tempérament, ou simplement à la facilité ou la difficulté de s'entendre avec vous. C'était « Oui, les parents ont un enfant préféré », un texte de Louise Leduc, paru le 16 janvier 2025 dans La Presse.
Comment s'établissent les priorités de déneigement à Montréal? Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 22 janvier 2025 dans Le Devoir. Le Montréalais de base aime chialer contre la température, les bouchons de circulation et le déneigement. Et, parfois, contre les trois en combinaison. À preuve, le 13 janvier 2025, à 13h19, alors que la Ville de Montréal diffusait sur ses réseaux sociaux de l'information sur le deuxième chargement de neige de la saison hivernale, les commentaires négatifs ont immédiatement commencé à s'accumuler, ajoutant à la bordée de neige une tempête de critiques. Les plus courantes portaient sur le temps pris à dégager les rues. « Il était temps, depuis une semaine », disait l'un avec un émoji de bâillement. « Enfin, je ne vous raconte pas la galère de chasse de place qu'on a faite avec mes voisins depuis plusieurs semaines », ajoutait un autre, et ainsi de suite jusqu'à cette évaluation globale. « Je me souviens d'un temps où l'efficacité était au rendez-vous à la ville de Montréal ». François Limoges, maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, ne nie pas que le chargement de la neige puisse prendre du temps. D'autant que la situation découle d'une décision réfléchie et parfaitement assumée de le retarder au profit du déblaiement prioritaire des rues et trottoirs. « On reçoit des plaintes pour le déneigement, c'est vrai », dit l'élu responsable par intérim du service hivernal à Montréal. « Mais on n'en reçoit pas souvent pour les trottoirs mal déneigés ». Il ajoute qu'on tient pour acquise cette préséance accordée au trottoir, alors qu'il s'agit d'une priorité datant d'une décennie à peine. Pendant longtemps, les propriétaires ont déblayé eux-mêmes la neige devant leur maison. La première moissonneuse à neige mécanique, une invention locale, a été employée à Outremont en 1927, et dans les décennies qui ont suivi, les rues ont souvent reçu une attention obsessionnelle de ces machines. Dans Rosemont, nous avons été les premiers à dire aux travaux publics que la priorité devait être accordée au trottoir, dit M. Limoges, qui a été l'un des premiers élus de la formation Projet Montréal, maintenant au pouvoir dans la métropole. Les gens des travaux publics trouvaient ça révolutionnaire. Leur priorité, c'était de déblayer les rues, puis de charger la neige le plus rapidement possible. Les trottoirs n'étaient pas du tout priorisés. Il a fallu changer les méthodes de travail des cols bleus pour y arriver. Le maire d'arrondissement raconte les effets immédiats du changement de priorité. En 2012, après une forte bordée de neige, il avait traversé son arrondissement en marchant sur les trottoirs, puis avait été obligé de marcher dans la rue une fois passé l'autoroute métropolitaine, qui en sépare la section nord. Une chose habituelle à cette époque, pas si lointaine, c'était ça aussi, quand l'efficacité était au rendez-vous à la ville de Montréal. Une nouvelle politique. Une fois au pouvoir, Projet Montréal a centralisé les décisions pour uniformiser les opérations de déneigement à l'échelle montréalaise. Une nouvelle politique adoptée il y a moins d'un an, en avril 2024, a fait passer de 3,1 jours à 4,3 jours le temps permis pour le chargement de la neige et a étiré les parcours que les équipes de déneigement doivent couvrir. Il y a plus de 10 000 km de rues et de trottoirs à déblayer sur le territoire. Les équipes ont maintenant un délai d'une douzaine d'heures avant de commencer le déblaiement s'il est jugé nécessaire. Un sondage Léger a révélé en 2024 que les Montréalais sont généralement satisfaits du service de déneigement. Quand on décrète un chargement, les arrondissements ont l'obligation de déblayer les trottoirs, de les sécuriser, de les saler ou de répandre des abrasifs, de déblayer les rayons de trottoirs et ensuite, ils peuvent commencer le chargement de la neige, résume M. Limoges. Il faut déblayer les rues, c'est important, mais la priorité est accordée aux trottoirs. C'est un changement de pratique majeur qu'on tient maintenant pour acquis, et c'est tant mieux. Ce service essentiel sert tout le monde, et en premier lieu, les personnes à mobilité restreinte. M. Limoges a été le proche aidant de sa mère pendant des années. Il connaît donc les contraintes auxquelles font face certaines personnes. Un trottoir mal déblayé, ça veut dire un emprisonnement chez soi pour une personne fragilisée. C'est aussi simple que ça, affirme-t-il. Pour les parents avec une poussette, pour les gens qui se déplacent avec une canne ou une marchette, pour les fauteuils roulants, c'est une nécessité d'avoir un trottoir bien et vite dégagé, résume l'élu de Projet Montréal. Alain de Souza, maire de l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent et tête d'affiche de l'opposition à l'hôtel de ville, souligne aussi la nécessité de bien dégager les trottoirs afin de permettre une mobilité inclusive. Notre objectif a toujours été que la personne du troisième âge qui va faire ses emplettes à pied au magasin le fasse de manière sécuritaire, dit-il, en précisant que cette règle est en vigueur dans son arrondissement depuis des années. Notre objectif est également de donner du confort aux automobilistes. Cela dit, il estime que du temps est encore nécessaire avant de pouvoir évaluer la qualité des services de déneigement rendus depuis la mise en place de la nouvelle politique. De nouvelles règles de sécurité obligent aussi les travailleurs, notamment les conducteurs de machinerie lourde, à prendre des périodes de repos, ce qui peut ralentir certains services, note-t-il également. Et les pistes cyclables? Les réseaux sociaux déversent aussi leur flot de reproches à propos des pistes cyclables qui seraient mieux déneigées que les trottoirs. Que voulez-vous? La ville n'a pas compris qu'il y a des centaines de milliers de piétons qui marchent sur les trottoirs chaque jour pour, peut-être, un cycliste qui roule sur les pistes de Bessic, dit une publication datée du 8 janvier 2025, photo à l'appui. Me semble que le choix est évident, mais la ville s'entête à nous laisser des trottoirs dangereux au profit des cyclistes. Je trouve ça médiocre comme choix. Vive la reine, vive Valérie, qui déjà? François Limoges rappelle que Montréal compte bien plus de trottoirs que de pistes cyclables. Il est donc normal que le traitement de ces zones pour cyclistes se termine plus vite. De plus, l'asphalte noir des pistes absorbe davantage les rayons du soleil et réagit mieux aux abrasifs que le béton des trottoirs. Les pistes cyclables sont déneigées en même temps que les trottoirs, mais elles ne le sont pas plus rapidement et ne le sont pas au détriment du travail sur les trottoirs, affirme l'élu responsable par intérim du service hivernal. 2340 km de trottoirs. Le réseau de trottoirs de Montréal totalise 2340 km. La qualité de ces infrastructures a été évaluée en 2019 et en 2020, et une nouvelle campagne d'auscultation artérielle est prévue en 2025. Bilan: la chaussée pour les piétons n'est guère plus en forme que celle pour les véhicules à moteur. La métropole a développé sa propre méthode d'auscultation des défauts de surface pour en venir à la conclusion que 34,1% du réseau est en excellent état et 22,7% en bon état. La note moyenne vaut pour 18,2% des trottoirs. Reste ce qui ne va pas. 12,2% du réseau est en mauvais état et 12,8% en très mauvais état. Le cœur des zones bétonnées pour les marcheurs laisse donc à désirer. La Ville de Montréal estime par ailleurs qu'environ 30% de ces rues sont dans un mauvais état. C'était « Comment s'établissent les priorités de déneigement à Montréal », un texte de Stéphane Baillargeon paru le 22 janvier 2025 dans Le Devoir.
Il était une fois des gens heureux. Un texte de Mario Girard, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse. Monique Giroux a instauré une tradition à son émission Chant libre. Au début de la nouvelle année, elle offre une programmation musicale bâtie autour des chansons qui ont été populaires 50 ans plus tôt. Au début de l'année, nous avons donc eu droit au succès de 1975 dans une émission que vous pouvez écouter en rattrapage sur audio. Je me suis évidemment délectée. Les chansons choisies m'ont ramenée à des souvenirs précis. Beaucoup d'images ont défilé. Puis, soudainement, j'ai été envahie par un curieux sentiment. J'ai réalisé à quel point cette période était nourrie d'une grande insouciance et combien celle-ci me semblait aujourd'hui lointaine et impossible à retrouver. Diane Dufresne se demandait passivement si elle allait devenir une hôtesse de l'air et passer toute sa vie à flyer, alors que Jo Dassin rêvait d'un amour aux couleurs d'un été indien. Quant à Nicole Croisille, elle collait la pédale au tapis pour nous dire que pour la première fois de sa vie, elle s'était enfin sentie femme, car elle avait rencontré un amant, gai comme un Italien, qui sait qu'il aura de l'amour et du vin. À cela j'ajoute « Je t'aime à la folie » de Serge Lama, « Quand j'étais chanteur » de Michel Delpech, « On dirait le Sud » de Nino Ferrer, Le show business de Jean-Pierre Ferland et la très tonifiante Senior Météo de Patrick Zabé. On était tellement au-dessus de nos affaires en 1975 que c'est à ce moment que Gérard Lenormand a enregistré La balade des gens heureux. S'il y a une chanson qui transpire la joie de vivre, c'est bien celle-là. Et même quand on décrivait un horizon sombre, on le faisait avec un air joyeux et en sifflotant comme Sylvain Lelièvre dans Petit matin. Paraît aussi que le président s'amuse à jouer à la roulette entre deux annonces à la page 100 avec ce qui reste de la planète. On se moquait gaiement du sort de la planète, car on la croyait éternelle. Cette idée que les chansons de cette époque reflétaient un réel détachement, je l'ai aussi beaucoup entendue depuis la mort de Stéphane Venn. Il était une fois des gens heureux, créé en 1981, décrit la quiétude tranquille que l'on vit dans les années 1930 et 1940. J'écoute ce monument de chansons et elle me rend nostalgique d'une époque que je n'ai pas vécue. N'allez pas croire que toutes les chansons du milieu des années 1970 étaient du genre « Allez hop la vie ». Si le ton était parfois grave, il était empreint de l'espoir d'un monde nouveau, surtout à un an de l'accession au pouvoir du PQ. Aujourd'hui, les auteurs ont du mal à voir la vie en rose. Et c'est normal. Je comprends parfaitement les artistes de faire des chansons qui expriment les peurs de notre époque. Pourquoi croyez-vous que les Cowboys fringants ont fait « L'Amérique pleure » Cette chanson, l'antithèse de la balade des gens heureux, suinte de désespoir. Cette impression que j'ai, des études la confirment. Des chercheurs ont observé une diminution des thèmes positifs dans les chansons. Les paroles sont plus négatives qu'autrefois, avec une augmentation de mots qui expriment la colère et la tristesse. C'est ce qu'affirment des universitaires autrichiens qui ont analysé plus de 350 000 œuvres parues sur 5 décennies. Leurs travaux, parus en 2024, portaient sur la tendance qu'ont les chansons à devenir plus simples. Tout comme les peintres et les poètes, les créateurs de chansons s'imprègnent de leur époque, ils se nourrissent de ce qu'elle a à offrir. Ils deviennent ensuite son miroir. Les chansons patriotiques de la Première Guerre mondiale, les airs toniques de l'après-Seconde Guerre, les protest songs des années 1960, les arrangements musicaux délicieusement prétentieux des années 1980. Dis-moi ce que tu chantes et je te dirai dans quelle époque tu vis. Malgré la période trouble que nous traversons, il y a des artistes qui, aujourd'hui, réussissent à faire des chansons qui font fi de ce marasme. À ceux-ci, je dis bravo, car je devine bien qu'ils doivent parfois se demander s'ils ont le droit de commettre de telles chansons dans le contexte actuel. Je leur dis oui. Je leur dis même que c'est un devoir. Nous avons besoin de cela plus que jamais. Des chansons comme « Plus je sais, mieux je suis » d'Alpha Rococo, « Tout le monde en même temps » de Louis-Jean Cormier, « On leur a fait croire » d'Alex Nevsky, « J'aime les oiseaux » de Yann Perrault ou « Deux par deux rassemblés » de Pierre Lapointe nous sortent de notre abattement. Elles nous aident à vivre. On veut entendre des mots qui font rêver, des mélodies qui font chanter, des rythmes qui donnent envie de danser dans une allée de Provigo. Pendant les 3 minutes que durent ces chansons, on pleure moins sur le sort de l'Amérique. C'était « Il était une fois des gens heureux », un texte de Mario Girard, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse.
Un étudiant corrige à nouveau la signalisation autour du REM. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 20 janvier 2025 dans La Presse. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, veut l'adage. Et Dashiell Friesen l'a bien compris. Le jeune étudiant en graphisme a décidé, pour la deuxième fois, d'améliorer la signalisation déficiente autour du réseau express métropolitain, REM. L'étudiant de Concordia avait fait parler de lui en 2023 en installant des affiches pour améliorer la signalisation entre le métro et le nouveau train léger. Un mois après l'inauguration du REM et devant l'inaction de l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, il avait conçu et imprimé en août 2023 des dizaines d'autocollants avant de les apposer sur le long parcours intérieur qui relie le métro Bonaventure à la station de la gare centrale. À ce moment, la nouvelle avait fait vivement réagir la ministre des Transports Geneviève Guilbeault, qui avait demandé des changements rapides à la RTM. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens. On peut y aller, nous, faire de la signalisation au besoin. Des fois, je suis quasiment rendu là, avait-elle déclaré. Quelques jours plus tard, la RTM s'était finalement ajustée. Or, depuis 1 an et demi, rien d'autre n'a été fait alors que les besoins sont grands, dénonce M. Friesen. Ils n'ont fait que remplacer les signaux que j'avais mis par les leurs, en fait. Ils n'ont rien mis de plus. Ils ont fait le strict minimum, dit Dashiell Friesen. Pour l'étudiant, la priorité était cette fois d'ajouter de la signalisation dans l'aire de restauration des halles de la gare centrale près de Place Ville-Marie, là où beaucoup de gens se perdent chaque jour. Au total, il a donc installé 7 grands panneaux indiquant clairement où aller prendre un train, le métro, un autobus et même pour se rendre à des rues à proximité. Je les ai installés il y a un moment déjà et ils sont toujours là, comme si c'était du matériel officiel, dit-il. On doit s'améliorer. Comme la dernière fois, les autocollants que l'étudiant a créés ressemblent à s'y méprendre à une signalisation officielle. Avant de les installer, Dashiell Friesen affirme avoir fait des plaintes auprès du propriétaire du bâtiment, l'entreprise Cominar, mais sans jamais obtenir de réponse. Il s'est finalement rendu sur place pour parler à quelqu'un. « On m'a dit qu'il faudrait approuver mon matériel auprès de Parc Canada, qui est responsable de l'aspect patrimonial du site. Je suis parti et je les ai collés quand même. » »« Et rien n'a été enlevé, » dit Dashiell Friesen. L'étudiant qualifie la situation de « particulièrement ironique ». Cominar, de son côté, se limite à dire que la signalisation liée au REM doit faire l'objet d'approbation de différentes autorités en considération des règlements et du caractère patrimonial du complexe de la gare centrale. L'entreprise, qui projette de construire deux tours jumelles de près de 200 mètres au-dessus de la gare, assure toutefois avoir le souhait que cette signalisation soit claire pour ses visiteurs. En coulisses, des sources soulignent que le dossier de la signalisation avance à pas de tortue parce qu'il relève d'un enjeu économique. Chaque acteur commercial faisant partie de la trajectoire du pôle qui est la gare centrale a un certain intérêt à diriger les usagers vers un endroit plutôt qu'un autre. À la RTM, on soutient faire au mieux compte tenu des circonstances. Outre le lien entre la gare centrale et le métro, des éléments de signalisation ont été ajoutés entre le REM et le point d'embarcation du transport adapté, ainsi que dans divers endroits susceptibles d'aider les gens à mieux se retrouver, lorsque cela était possible. Notre volonté est d'apporter des améliorations en continu. Des discussions sont en cours avec les différents partenaires privés impliqués dans le parcours usager. Pour la gare centrale, les prochaines étapes consiste en la pérennisation de la signalisation avec des matériaux plus robustes et durables, affirme par courriel la porte-parole de l'autorité, Isabella Brisson-Urdaneta. CDPQ Infra, le gestionnaire du REM, souhaite également plus de collaboration. Ce qui vise à simplifier l'accès aux stations doit faire l'objet d'analyses. Nous travaillons donc étroitement avec nos partenaires, dans ce cas-ci, l'ARTM et Cominar. Nous sommes tous constamment en mode amélioration, assure l'organisation. Dashiell Friesen, lui, trouve surréaliste que la signalisation entourant les réseaux de transport collectif ne soit pas mieux coordonnée. C'est par exemple très particulier qu'à peu près rien n'indique aux voyageurs que le REM est là, quand on est à l'extérieur. Il n'y a presque pas d'indication. On doit s'améliorer un peu partout, conclut-il. Même sur le plan des infrastructures, c'est souvent complexe. Un raccourci permettant à de nombreux usagers de gagner du temps lors d'une correspondance entre le métro et le REM avait finalement ouvert ses portes en mars 2024. Après des mois de discussions avec Kevrick, propriétaire de Place Bonaventure. C'était « Un étudiant corrige à nouveau la signalisation autour du REM », un texte d'Henri Wallet-Vézina paru le 20 janvier 2025 dans La Presse.